bonsoir à vous depuis Abidjan, Ouagadougou, N'Djamena et Kabadou avec vous depuis le studio 9 de La Voix de l'Amérique où il est 18h05 en temps universel et 13h05 ici à Washington. À votre avis se penche ce lundi 11 décembre sur le harcèlement dont sont victimes les enfants ayant une différence. Ils ont un handicap physique ou mental, ils sont albinos ou ont même un bec de lièvre. Leurs caractéristiques leur vaut raillerie et harcèlement et les plus fragiles sont même poussés au suicide. Selon vous, quelle est l'ampleur du phénomène? Comment lutter contre l'intolérance et le harcèlement des enfants ayant des différences? Nous allons en débattre en direct dans votre émission interactive pendant près d'une demi-heure. Pour participer, un seul numéro, le 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. On va en débattre avec plusieurs parents d'élèves et notamment avec une première maman qui s'appelle Ida, qui est donc à Paris. Mais on a d'abord Aimé qui se trouve donc à Madagascar et qui a vécu donc en RDC avec, si j'ai bien compris, un frère autiste. Bonsoir Aimé.
Bonsoir.
Tout d'abord, merci d'avoir participé en Afrique du Sud. Alors tout d'abord, merci d'avoir participé à l'émission. Vous êtes à Pretoria précisément. Alors vous avez un frère autiste. On sait que l'autisme en Afrique, c'est pas quelque chose qui est forcément bien vu. C'est une maladie, un handicap qui est souvent mal compris. Et on aimerait avoir votre expérience et votre témoignage.
Oui, alors on a eu un frère autiste. Parce qu'il est décédé, en fait, il est déjà, il n'est plus là. Et donc, comme tu viens de le dire, c'est une maladie qui n'est pas comprise. Et déjà que nous, dans la famille, on savait que c'était une autre maladie. On ne nous a jamais dit exactement que c'était l'autisme. Personne n'a pu le détecter, personne n'a pu... on disait juste qu'il est handicapé. Et donc, c'était passé comme ça.
Alors, d'un point de vue médical, je me suis même trompée. L'autisme n'est pas une maladie, c'est un trouble du comportement qui fait que des jeunes n'ont pas ont des troubles qui font qu'ils n'ont pas les mêmes façons de vivre que nous. Ils sont souvent en retrait, souvent même ils sont très intelligents, ils développent certaines sensibilités. Et vous, comment ça a été vu, ce trouble autistique au sein de votre famille et au sein de votre entourage?
Oui, donc c'était un fait qu'on a subi, qu'on a trouvé juste comme ça. On voyait les signes se développer au jour le jour. Et donc le petit frère a grandi et tout l'entourage était là et personne n'a pu... Parce qu'il n'y a pas un système particulier, un système qui pouvait le prendre en charge. Donc on faisait des massages et tout ça. Et au niveau social, c'était vraiment le retrait... pour pas dire qu'on cachait le petit frère. Donc, sur un point de vue social, dans notre pays, c'est des enfants qui sont un peu mis en retrait et qui bénéficient peut-être des soins inappropriés parce que les massages et tout ça, ça n'aide pas.
Alors, vous parlez de massage. Il y a d'autres parents qui parleraient même de séances pour leur enlever des puissances, parce que certains voient ça comme une malédiction, l'autisme. Et vous, est-ce que votre frère a pu aller à l'école, à la maternelle? Quand est-ce que ça a été diagnostiqué?
Oui, pas du tout. Il n'est jamais allé à l'école. Et c'est depuis l'enfance, c'est depuis une année qu'on voyait les retards de développement. Et donc, il y a des membres inférieurs qui... toute la photo, quoi. Et on subissait ça. Et les parents et nous, comme tu dis, des prières, on en a vu, des évangélistes qui sont passés à la maison. Et après ça, c'était des massages, des séances de massage et tout ça. Et donc, il n'y a pas assez de connaissances par rapport à l'autisme. Donc... Il a passé ses 10 ans et à 14 ans, il est décédé, au fait.
C'est vraiment pas facile. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et on vous remercie beaucoup pour votre témoignage. On espère que des choses et des structures vont voir le jour en RDC et même dans d'autres pays, car ce n'est pas forcément toujours très bien soigné et traité sur le continent. Merci beaucoup, Aimé, pour votre appel.
Oui, merci. Merci. Bye bye.
Au revoir. On va donner la parole à présent à une mère de famille qui s'appelle Ida, qui est donc à Paris. Bonsoir Ida. Votre enfant est né avec une malformation et vous avez dû quitter la Côte d'Ivoire parce qu'on ne pouvait pas soigner cette malformation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cela?
Ma fille de 3 ans maintenant est née avec une pathologie assez rare, le lymphangiome. Et ça a été détecté dès la naissance. Et on a vu des médecins et tout en Côte d'Ivoire. Elle a même suivi une première opération quand elle avait 7 mois. Mais en fin de compte, les médecins se sont rendus, ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas continuer le traitement parce que vu son âge et vu la maladie.
Alors pour que les auditeurs puissent vraiment visualiser, la maladie rare dont vous parlez, c'est que votre enfant avait au niveau de la gorge une énorme boule qui peut avoir la taille, on va dire, d'une orange ou d'un énorme citron, ce qui fait que c'est très impressionnant. Aujourd'hui, avec l'ablation de la tumeur qui était à l'intérieur de la gorge, il lui reste encore une trace. Elle est en première année de maternelle. Comment ont réagi les autres enfants face à cette différence physique?
Déjà, le premier jour, faut dire que tous les enfants là étaient... Je suis surpris ou quoi de l'avoir avec cette boule là du côté gauche et tout le monde la regardait, même les maîtresses, j'ai eu quelques regards, même des animatrices, tout le monde la regardait. Donc tout de suite j'ai interpellé la directrice de l'école et je lui ai expliqué un peu ce que la petite avait et elle m'a dit qu'il y avait pas de souci. Bon, après elle a expliqué un peu aux maîtresses, aux animatrices, et la maîtresse a expliqué aussi aux enfants. Bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux.
Alors, à travers votre témoignage, on se rend compte aussi que le fait de prévenir les autres enfants, de les sensibiliser, a une importance capitale.
Oui, parce que les enfants, ils ont besoin de savoir, parce que quand ils voient, ils se posent des questions, ça c'est clair. Même une grande personne, quand tu vois un enfant avec une boule sur le côté, tu te poses des questions. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était peut-être une carie ou quelque chose comme ça. J'ai dit non, parce que une carie maltraitée ou autre. J'ai dit non, j'ai expliqué un peu la maladie à la maîtresse, à la directrice, et qui ont eux su employer des termes pour les expliquer aux enfants.
Alors se poser des questions, c'est une chose, mais le rejet en est une autre. L'actualité aux États-Unis est assez difficile. Un jeune écolier s'est fait filmer par sa mère en train de pleurer suite aux railleries qu'il a pu subir à travers son école. Et est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir un rejet à un moment où tout a été évité justement grâce à cette prévention?
Oui, il faut dire que dans les premiers instants, j'ai senti ce rejet parce que j'ai vu que tout le monde, personne ne l'approchait, les enfants ne l'approchaient pas. Ils étaient tous arrêtés en train de la regarder. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. Donc tout de suite, c'est pour ça tout de suite, je suis allée vers la directrice pour lui expliquer. Parce que même j'ai une animatrice qui la regardait d'une manière comme pour le regard même disait tout. C'est comme si elle se demandait, mais qu'est-ce qu'elle a cette petite. Donc tout de suite, je suis allée vers la directrice pour lui expliquer. Et vraiment, j'ai été satisfaite parce que le fait d'expliquer aux enfants, aujourd'hui, elle est acceptée à l'école. Quand elle arrive à l'école, tout le monde la connaît, ça se passe très bien.
En tout cas, merci beaucoup Ida pour votre témoignage. On vous souhaite une bonne fin de journée et beaucoup de courage pour le rétablissement total de votre enfant. On va aller du côté du Burkina Faso avec Boukari Kiema, qui est secrétaire permanent de l'Association des élèves et étudiants handicapés du Burkina. Bonsoir, merci de participer avec nous à cette émission. Alors si j'ai bien compris, spécialement touché par le problème de la malvoyance. Est-ce bien ça? Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience? Vous êtes aujourd'hui un adulte, mais comment s'est passée l'enfance vis-à-vis de l'handicap?
Bon, je suis le secrétaire permanent de l'Association des élèves étudiants handicapés de Burkina.
Oui.
Mais handicapé moteur du membre inférieur gauche.
D'accord.
Ayant dans notre groupe des étudiants handicapés visuels, qui vivent vraiment des situations un peu difficiles au sein de l'Université de Rabat. Si on prend la plupart des enfants handicapés visuels, On a toutes ces structures au niveau de la ville de Yaradougou qui peut les accueillir afin de puisque le braille n'est pas vulgarisé dans toutes les écoles. Donc l'une des écoles à Yaradougou, et il y a une autre abbaye du lycée qui arrive à encadrer ces élèves-là à l'équipe du braille.
Alors vous dites que vous avez le braille jusqu'en terminale, mais après la terminale, comment vous faites?
Et après la terminale, c'est l'une des difficultés qu'on raconte à l'université de Rébouille et dans les autres instituts privés, puisque les enseignants ne sont pas formés à l'équipe du braille. Donc il faut débourser pour chaque étudiant la somme de 30 000 francs à payer à une structure externe. Il viendra à chaque fois interpréter les devoirs et puis facile le format braille afin que les camarades d'étudiants puissent composer. Et résumer encore, reproduire ces devoirs-là sur format écriture afin que les professeurs puissent corriger les devoirs de nos camarades.
Alors on imagine bien que tout cela a un coût d'avoir quelqu'un qui puisse d'une certaine manière nous assister pour pouvoir reproduire les textes, noter les cours dans les amphithéâtres. Est-ce que ces coûts, c'est facile pour les membres de cette association de pouvoir les payer? Est-ce qu'il y a une aide le permettant ou pas du tout?
Non, il n'y a pas d'aide en tant que tel, puisque les bourses ont profité le même niveau que les personnes valides, dont nous sommes beaucoup réduites. Donc, ces personnes ici, il faut que le déplacement, il faut une personne qui l'accompagne à l'université, puisque les infrastructures ne sont pas adaptées en tant que telles. Donc, ça fait une autre chose en tête pour ces données-là, dans le cadre de leur déplacement. Mais les coûts ne sont pas supportés en totalité par l'association. C'est là qu'on a besoin de quelques deux contributions qui nous accompagnent. On essaie de voir ceux qui sont vraiment dans les difficultés, on les appuie. Mais la majorité, c'est eux-mêmes qui se dédient avec leurs parents pour pouvoir payer cette somme-là à la culture SM qui viendra chaque fois.
Alors, merci beaucoup. La plupart, ils sont aidés par leurs parents pour pouvoir assumer les frais. Vous pouvez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On a d'autres auditeurs qui souhaitent également participer. C'est le cas de Karim Aboudou qui est à Paris. Bonsoir.
Bonsoir, Ika.
Vous avez pu entendre différents témoignages. Vous, étant petit, est-ce que vous avez pu voir des comportements de ce type de harcèlement et de moquerie envers des enfants ayant une différence? Qu'est-ce que vous préconisez pour que, justement, ce genre d'attitude puisse être prévenu et stoppé?
Dans un premier temps, j'ai pu voir ce type de comportement en tant qu'enseignant. Donc, dans le cas, je pense que dans un premier temps, je pense que la maltraitance est déjà au niveau institutionnel. Déjà, ne serait-ce que pour les enfants qui ont des déficiences intellectuelles ou les équipes pédagogiques sont pas formées pour pouvoir répondre ou même sans qu'il y ait des déficiences. À s'aggraver le fait de dire à un enfant qu'il est nul ou qu'il est bête ou ce genre de choses.
Oui.
Ça commence déjà par là.
Oui, c'est une façon de dénigrer l'enfant, tout à fait.
Une façon de dénigrer les enfants. De plus, quand vous avez des enfants qui sont porteurs de handicap et que les équipes pédagogiques ne font pas quelque part les efforts pour les accompagner, c'est-à-dire si vous avez des élèves qui ont des incapacités moteurs, on va pas essayer d'aider l'enfant à tenir un stylo ou ce genre de choses. Du coup, au niveau de la mémoire, parce que ça peut aussi passer par l'écriture, donc ces élèves ne peuvent pas apprendre, donc du coup forcément c'est voué à l'échec par la suite.
En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre témoignage. En tout cas, on sait qu'en France, par exemple, le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait insisté pour que tous les enfants ayant un handicap puissent aller à l'école. Et de là, on a créé des emplois pour des personnes qui n'étaient pas forcément habilitées, mais qui accompagnaient les enfants. Et certains professeurs ont dit que c'était un échec, puisque les personnes n'étaient pas forcément, comme vous le disiez,
formées. Ouais.
Exactement. Donc, on se demande aussi quelle serait la solution, puisqu'on a un côté des parents qui cachent leur enfant parce qu'ils ne savent pas comment faire pour au quotidien, et d'autres qui amènent leur enfant dans des structures qui ne sont pas adaptées.
L'une des solutions, déjà, c'est vrai que c'est dans le cocon familial où faudrait déjà donner confiance à nos enfants. Mmh. Et extrêmement, ça passe par la confiance. Et effectivement, La différence, elle est réelle, mais il ne faut pas accepter l'indifférence. Autant dans la famille qu'à partir du moment où l'enfant va à l'extérieur. Je peux vous donner un exemple. Il y a des enfants, enfin, par exemple, pour les enfants qui ont une texture de cheveux différente de type afro, où des élèves ou même les enseignants vont commencer à lui dire « Oui, t'as une coupe de cheveux en pétard » ou ce genre de choses.
Tout à fait.
Ça commence par là et c'est des choses qu'il ne faut pas accepter et qu'il faut dénoncer.
La sensibilisation, elle est à faire à tous les niveaux. Merci beaucoup pour votre participation. On vous souhaite une excellente soirée. On va donner la parole à présent à un autre auditeur qui s'appelle Abdoul Diallo. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Vous allez bien?
Oui, très bien. Et vous-même?
Oui, moi je vais bien. D'ailleurs, je vais préciser d'abord, le plus souvent quand vous prononcez mon nom, vous dites Abdoul Diallo, c'est Abdoul Gadiri Diallo.
Alors on rectifie, Abdoul Gadiri Diallo, bonsoir. Quel est votre avis sur le sujet du jour?
Voilà, d'ailleurs, d'abord, c'est une chose d'ailleurs qui me touche beaucoup. J'ai une sensation vraiment... Je ne sais même pas comment vous dire ça. Ça me touche de voir des albinos ou bien des gens handicapés vraiment être ségrégés. En ce qui concerne la vie et la vidéo qui circule comme ça aux États-Unis, c'est vraiment inhumain, quoi. D'ailleurs, depuis que Trump est venu au pouvoir, j'ai senti de nouveau dans l'État américain. Le style qui se réinvente. Il faut que l'Union européenne ou bien les Nations unies agissent sur ça. Je dirais qu'en concernant les albinos ou les enfants handicapés là, ça diffère selon les pays. Parce que nous, en Guinée, particulièrement, dans notre communauté ou bien dans notre pays, je ne vois pas assez de ségrégation ou bien de rejet, c'est tout.
Donc la différence est assez... La différence est bien vue, il n'y a pas de difficulté particulière quand on a une différence physique en Guinée.
Oui. Particulièrement nous, dans notre communauté, je crois bien que ça se dit à l'éducation encore. Parce que nous, on nous a dit qu'on n'est pas ségrégué, on n'est pas voir son prochain autrement, d'accepter l'être humain tel qu'il est, parce que c'est Dieu qui lui a créé ainsi. Si Dieu lui a voulu ainsi, on nous produit souvent des conseils dans nos familles. Donc, comme l'a si bien dit la première maman qui a intervenu au début de l'émission...
Oui, elle s'appelait Aimée.
Je pense que... Oui, concernant les enfants handicapés, là aussi, c'est très bien de les amener à l'école, de ne pas les casser à la maison, de partir à l'école.
Ça peut les stimuler, effectivement. Ça peut les stimuler d'aller à l'école avec des enfants n'ayant pas d'handicap, effectivement. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Vous êtes contre la ségrégation et l'intolérance concernant les différences. On va prendre une autre auditrice. Il s'agit de Mariam. Elle est à Bamako. Bonsoir.
Allô?
Oui, bonsoir Mariam, allô? Comment allez-vous?
Oui, bonsoir Ekia. Oui, je vais très bien.
Que pensez-vous du sujet du jour?
Oui, moi je pense que les albinos et tous ceux qui souffrent de ces maladies doivent être...
Alors les pauvres albinos, on doit rappeler quand même que c'est pas une maladie, c'est juste une différence effectivement visuelle. Hein.
Oui.
Et on sait qu'au Mali, c'est pas forcément facile. Salif Keita a même créé une grande association pour eux. Vous, quel est votre regard sur l'intolérance qu'il y a quand on a une particularité physique ou mentale qui fait qu'on est différent des autres? Comment faire pour que les enfants évitent... Oui, ils doivent être soutenus.
Oui, ils doivent être soutenus, ils doivent avoir une aide particulière. Et j'ai vu dans certains pays, et même au Mali, avant, ces enfants étaient condamnés, ils étaient tués, les mains étaient coupées. Et vraiment, c'était très difficile pour leurs parents. C'était très difficile. Moi, je pense qu'ils ne méritent pas ça. ils ne méritent pas ça. Ils n'ont pas demandé à Dieu de venir au monde étant cette différence particulière. Donc on doit beaucoup faire pour leur donner un soutien moral, physique et financier.
Alors, merci beaucoup pour votre participation. On a une mère qui nous expliquait aussi que, concernant l'autisme, ils ont appris des techniques pour pouvoir aider ces enfants et ils se sont regroupés en associations à défaut d'avoir des structures pour pouvoir les aider. Donc, c'est aussi une solution, hein, comme vous disiez, les soutenir, être contre la ségrégation, comme disait un autre auditeur, et aussi être solidaire. On va prendre la parole d'un autre auditeur qui est donc au Mali. Il s'agit de Djara Kanyoumé. Bonsoir.
Et bonsoir, Etia. Bonsoir à tous les plateaux de la Voix d'Amérique. C'est toujours dans mon village natal à Sonikeni.
Alors, on est ravis de vous avoir en direct. Quel est votre avis sur le sujet du jour?
Merci. Je pense que vraiment, Etia, il faut imaginer que d'aujourd'hui, depuis l'Amérique était l'Amérique, il faut imaginer qu'il y a beaucoup de phénomènes qui se passent en Amérique. Donc, pour lutter contre ce phénomène, il faut que les États américains doivent faire leur responsabilité pour bien s'occuper à des enfants par rapport à la vie des êtres humains. Il faut imaginer d'aujourd'hui, en Amérique même d'aujourd'hui, les enfants de 10 ans ou bien les enfants de 15 ans et marchent avec des armes. Il faut imaginer que vraiment c'est pas normal. Donc vraiment l'administration Trump doit trouver beaucoup de solutions rapidement pour régler cette fléau. Il faut imaginer d'aujourd'hui.
Alors, les États-Unis, effectivement, ont certains défauts, mais c'est vrai que le sujet du jour, c'est plus comment on gère les différences des enfants et le harcèlement dont ils sont victimes. Les États-Unis, est quand même un pays où, au niveau de l'handicap, il y a pas mal de choses qui sont faites pour les aider. Après, c'est sûr que les comportements que peuvent avoir certains enfants vis-à-vis d'autres enfants ne sont pas forcément du ressort des États. Mais peut-être également des adultes, je ne sais pas, c'est à voir. Et en Afrique, dans votre pays, par exemple, est-ce que ça existe, selon vous, de voir des enfants se moquer d'autres enfants à cause de leurs différences?
Non, effectivement, dans mon pays, comme le Mali, je n'ai jamais vu ça. Donc, à mon avis, je pense que vraiment, il faut que les parents aussi, ils doivent faire beaucoup de faveurs aussi pour bien s'occuper à des enfants par rapport même à des handicapés aussi.
Parce que c'est vrai que ça dépend vraiment des pays par rapport aux albinos. Par exemple, en Tanzanie, ils sont sujets à des meurtres même, hein, parce qu'ils sont très mal vus et implique des choses qui ne sont pas à eux. Bref, je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous souhaite une excellente soirée, Djara Kanyoumé. On va prendre un autre auditeur qui est donc à Dakar, au Sénégal. Il s'agit de Lamine. Bonsoir, Lamine.
Oui, bonsoir.
Alors, je rappelle que vous êtes vice-président de Convergence des aveugles pour l'unité et la solidarité et l'entraide. Et vous êtes donc au Sénégal. Alors, vous avez pu entendre différents témoignages. Vous avez travaillé avec plusieurs types de handicaps. Quel est votre avis sur ce sujet? Est-ce qu'il y a des rejets qu'il faut cesser? Comment vous voyez la chose?
Moi-même, je suis journaliste de formation, premier aveugle journaliste de formation au Sénégal. Je pense que le phénomène peut être culturel et social. Oui, dans les années 70 ou au début des années 80, au Sénégal, avant l'avènement de l'enseignement braille pour ce qui est des enfants à déficience visuelle, il y a eu une perception, en tout cas une mauvaise perception, en tout cas de la part de la société. Mais depuis l'avènement de l'enseignement braille et l'organisation de la lutte en merci des aveugles.
Alors, il nous reste très peu de temps, mais est-ce que vous êtes pour qu'on mélange les élèves malvoyants avec des cours en braille, avec des élèves n'ayant pas d'handicap, justement? Ouh, c'est déjà la fin de l'émission.
C'est tout à fait ce qui est souhaitable. Au Sénégal, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle l'éducation inclusive ou l'éducation intégrée. Moi-même qui vous parle, j'ai été mélangé avec des voyants et d'autres camarades ont été mélangés avec des voyants.
Alors, ce débat va être poursuivi, je l'espère, dans une autre émission, car c'est déjà la fin. Merci à tous nos invités et bien sûr à l'équipe technique. Et à vous, chers auditeurs, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur www.voafrique.com. Dans un instant, une nouvelle édition, Le Monde Aujourd'hui, présentée par Morgane Guiriec. Excellente soirée à vous.